Troisième et dernière partie de cette émission, toujours en compagnie de Marc-Alexandre et Nico. Marc-Alexandre, on va parler un peu de toi personnellement. C'est ta troisième année ici au club. Comment tu te sens déjà après 3 ans passés ici?
Je me sens vraiment bien. J'ai pu bien m'adapter par rapport à ma première année où ça a été un peu compliqué parce que je sors des Antilles.
Voilà, le climat, hein, ouais, on parle. Ça, ouais. Alors Nico qui est comme ça, qui a froid.
Hein. J'imagine les Antilles. Hein.
Non, c'était un peu compliqué.
Il paraît que tu mettais plusieurs couches de vêtements sur toi parce que tu avais assez froid quand même.
À l'hiver, ouais, quand même. T'étais obligé.
Ah, t'es obligé.
De septembre à mars.
Oui. Non, mais attends, c'est un choc de sortir des Antilles et d'arriver en métropole. Alors oui, le projet sportif, il est toujours intéressant. Ouais, mais culturellement, c'est quand même autre chose.
Après, ça va, je me suis bien adapté parce que je suis arrivé en juillet. Donc j'ai eu quand même un temps d'adaptation avant l'hiver. Et analytiquement, je me suis quand même bien adapté par rapport au projet de jeu de Chartres. Puisqu'au début, j'étais avec Yann Lemaire, donc au centre de formation. Et par la suite, j'ai eu Fabrice Rouillet et avec Tony Girona aussi, où ça s'est... Ça s'est quand même bien passé. Au début, c'était compliqué avec les pros parce que je sortais de niveau de National 3 en Martinique. Et là, je suis passé directement avec les pros en D1. Donc l'écart était vraiment énorme. Donc au début, c'était compliqué pour moi. Mais j'ai su m'adapter et au fur et à mesure, prendre mes marques et comprendre le projet de jeu. Et moi, je trouve que je me suis bien adapté quand même.
Et grappiller au fur et à mesure du temps
voilà,
de jeu, des minutes.
De jeu, que ça soit en défense ou en attaque, même à l'entraînement, parce que c'est là que ça part. Quoi. À l'entraînement, je faisais quand même de bonnes défenses. En attaque, je montrais que j'étais là. Donc non, c'était vraiment bien. Je me rappelle toujours en défense où je me suis un peu éposé face à Sergi, où j'ai donné une grosse tape sous le torse et ma trace de main était restée sous son torse. Et c'était vraiment incroyable.
C'était un peu l'accueil.
Ouais, c'est ça.
Bonjour, je suis là. Nico, on en parlait tout à l'heure, donc l'intégration des jeunes justement dans les pros. Marc-Alexandre est arrivé du coup de la Martinique. Justement, voilà, c'est un climat, c'est une culture. On arrive dans un nouveau projet, un nouvel environnement. Est-ce que c'est pas ça le plus dur pour s'intégrer que de s'intégrer au niveau handballistique ? Parce que le handball, on l'a dans les mains, on sait le jouer, on sait s'adapter entre guillemets au niveau. Mais on peut s'adapter au niveau, mais est-ce que c'est pas ça le plus dur, c'est justement s'adapter à l'environnement, le climat, le groupe, etc.
Ça fait partie, c'est une part importante effectivement. Tu pars un peu dans l'inconnu, hein, tu quittes ta famille, tu quittes tout ça, donc voilà. Et puis c'est aussi dur sportivement parce que voilà, il jouait en National 3 aux Antilles, ça devait être beaucoup moins dur à maîtriser ce handball que de jouer avec une équipe de pro. Donc voilà, il y a la première partie qui est dure, c'est de s'adapter à la vie et à la culture française. Enfin, voilà, c'est France, hein, les Antilles, mais bon, quand tu vas aux Antilles, tu comprends que c'est pas la même France. Et après, au niveau du hand, c'est dur parce que tu cogites. Et c'est une haute attente. On projette quelque chose sur un jeune. Maintenant, il faut s'adapter aussi sportivement. Donc, le premier choc, c'est voilà, culturel. Et après, handballistiquement parlant, il faut être présent. Donc maintenant, il arrive à gratter des minutes aujourd'hui, mais ça a quand même pris 3 ans. C'est sa troisième année, hein, donc il faut cravacher. Donc c'est très intéressant en tout cas. Mais c'est vrai que quitter la famille, c'est dur. Hein.
Ouais,
c'est compliqué. Hein.
Ouais, franchement, c'est pas... Après, on s'adapte un peu, mais c'est pas facile. Quoi.
Ouais, mais il y a beaucoup d'Antillais qui remplissent les équipes de France, hein, ou les sports de haut niveau. Et ça n'a jamais été simple. Hein. À Cholet Basket, ils l'ont fait pendant des années avec tous les Antillais qui arrivaient. Et le choc, voilà, il était là. Alors pendant 3-4 mois, c'est dur. Hein. Tu cogites, tu dis mais où je suis parti quoi. Et après, heureusement, l'attachement, le sport en fait, reprend le dessus. Et c'est là que si tu arrives à passer ce cap, ta carrière elle est lancée. Mais il faut vraiment accepter ça.
Tu l'as dit, c'est Yann Lemaire qui t'a fait venir ici en France. on l'a vu un petit peu avant avec Ivan Véran aussi qui est arrivé comme toi de Martinique ici à Chartres. Est-ce que ça a été aussi un point entre guillemets pour te rassurer de voir Ivan partir de la Martinique et aussi réussir ici et de te faire entre guillemets une petite accroche quand même avec toi pour te dire bah voilà, je pars pas tout seul entre guillemets.
Bah c'est sûr, ça fait un moment que je connais Ivan, parce qu'on était au pôle ensemble. Donc on a beaucoup échangé par rapport à ça quand j'ai su que Yann Lemire voulait m'intégrer au centre de formation. Donc c'est sûr que c'était plus facile pour moi parce qu'il était déjà là, il comprenait déjà le fonctionnement. Donc dès que je suis arrivé ici, ben, entre guillemets, on a su, enfin il a su comment m'intégrer, comment ça se passait, tout ça. Donc c'était vraiment bien de voir deux Antilles ensemble, on a pu ça s'est vraiment bien passé en fait.
En plus vous avez vécu ensemble dans les premiers temps et tout, ça. Donc ça permet voilà de retrouver un petit coin de chez soi mais en France.
Ouais, c'était vraiment bien. Le week-end où on mettait la musique antillaise, on faisait des petits des petits repas antillais. Donc non, c'était vraiment bien en fait.
Donc là tu nous l'as dit, tu es stagiaire pro cette année. Ouais. Forcément, t'aspires à avoir un contrat derrière. Comment tu vois, toi, un petit peu la suite pour toi ?
Moi, je dis qu'il faut toujours continuer à travailler. Donc, faut pas baisser les bras. Donc, si je continue à faire peut-être une bonne deuxième partie de saison, pourquoi pas espérer avoir un premier contrat professionnel. Donc, toujours continuer à travailler, même si c'est pas ici. Mais,
Surtout si Yann Le Maire t'appelle, tu nous le dis. Hein. Hein, tu vas pas du côté de ces sons tout de suite.
Hein. Donc voilà.
Nico, forcément, voilà, quand on arrive, on goûte à tout ça, on veut aller vers le plus haut niveau. Des fois, ça met un peu plus de temps, ça met un petit peu moins de temps, mais Marc-Alexandre l'a dit, le tout, c'est de bien travailler, de travailler dur.
Ah oui, il faut continuer à bosser. Il sait que maintenant, il est capable. Maintenant, il faudra montrer sur la deuxième partie de saison qu'il peut faire encore plus, que son coach peut compter sur lui, même si c'est des bouts de minutes, des bouts de match, pardon, il peut compter sur lui. Et puis, on ne sait pas comment sera l'avenir, puisque les Chartrains, on le sait déjà, ils vont changer de coach. Donc, est-ce que le nouveau coach aura plus une philosophie de faire confiance, enfin, confiance entre guillemets, hein, mais d'intégrer plus de jeunes, avec un noyau peut-être plus français. On ne sait pas exactement, donc il faut répondre présent jusqu'à la fin de la saison pour toi. Après, on verra. Mais c'est vrai qu'à 20 ans, tu as envie d'être professionnel, tu as envie d'être dans ce monde. Tu as déjà fait le pôle, le centre de formation, etc. Donc tu as envie aussi de
passer un cap aussi.
Il faut passer à l'étape suivante. Maintenant, les places sont chères. Hein, c'est compliqué. Hein, c'est un monde professionnel où y a peu de place pour beaucoup de prétendants. Donc il faut s'accrocher, se battre jusqu'à la fin de la saison, montrer que tu peux être efficace des deux côtés du terrain et puis faire gamberger ton coach en te disant j'ai un jeune quand même là, il est bien, il envoie du bois, peut-être l'intégrer de plus en plus dans mon équipe, dans ma rotation, et puis après on verra, on le souhaite que le meilleur hein, de toute façon, mais à 20 ans ça serait bien que passer le cap.
En tout cas c'est tout ce qu'on te souhaite pour la suite et ton avenir.
Merci.
Merci beaucoup Marc-Alexandre.
Merci à vous.
Merci Nico.
Merci à toi.
Et on retrouve tout de suite Marco qui va nous raconter une belle histoire.
Alors aujourd'hui, mon histoire, je la consacre à l'impact des réseaux sociaux sur le monde du sport et notamment les sportifs de haut niveau de manière générale. Ça devient hyper important, les réseaux sociaux, on le sait, pour la visibilité des sportifs, pour aussi la gestion de leur image. Ça crée une proximité entre le public et les sportifs dans leur vie un peu plus personnelle. Ça a une grande plus-value aussi pour la représentation des sports un peu moins connus et des sportifs un peu moins connus. Mais je tiens à parler malheureusement des dérives des réseaux sociaux entre pression négative, bad buzz comme on l'appelle sur la toile. Les sportifs sont mis à rude épreuve dans la gestion de leur carrière à cause des réseaux sociaux. On voit à grande échelle à l'image de la gymnaste Simone Biles lors des JO de Tokyo qui a subi une pression monstre mettre des critiques sur les réseaux sociaux et qui n'a pas pu continuer la compétition parce que mentalement c'était trop éprouvant. On voit aussi avec certains grands footballeurs qui ont pris la parole de manière délibérée sur leurs réseaux pour critiquer les coachs et les clubs. Donc heureusement aujourd'hui il existe des gestionnaires d'image, mais il y a quand même de grandes limites à ces réseaux et à la gestion des sportifs face à ça. Je tiens à en parler parce que même si à Chartres je pense que les sportifs ne sont pas à grande échelle, mondialement connus, etc., c'est quand même important de gérer ça et de montrer une belle image sur les réseaux pour représenter Chartres et nos sports et nos clubs, quoi.
Effectivement, Margot, alors est-ce que déjà on remet pour Nico les réseaux sociaux, Facebook, ça va, Nico, c'est bon, Instagram,
j'arrive à suivre, oui.
Tu commences à reprendre le dessus, ça va, ok, ça va. C'est bon.
Je vois ce que c'est.
Bon, impeccable, mais c'est vrai que tu as complètement raison, Margot, alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'exemples de réseaux sociaux où ça a été très négatif pour les joueurs. On se souvient notamment quand Periscope était un peu le réseau social un peu à la mode, beaucoup de dérives, notamment avec, si je ne me trompe pas, c'était Serge Aurier, je crois, au PSG, qui avait dérivé dessus. Alors c'est vrai que des fois on n'y pense pas, mais les joueurs mettent leur image aussi en péril, parce que c'est, mine de rien, c'est eux qui sont derrière. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, effectivement, le fait de pouvoir gérer, modérer en fait, par rapport aux gestionnaires d'image, les réseaux sociaux des sportifs, qui soient petits ou grands, hein, parce que je pense que même on le voit sur Chartres, il y a quand même des sportifs étrangers qui ont une aura internationale. Je pense à Victor Ichi, le pongiste, qui est vu un peu partout dans le monde, au Brésil, en Asie, etc. Et je pense que c'est bien de pouvoir réguler pour éviter des dérives, parce que des fois les dérives, ça peut aller, comme on l'a vu avec Simone Biles, sur des échecs assez cuisants.
Moi, je crains que les réseaux sociaux mettent aussi en péril le club, en fait, par l'image des joueurs. C'est ça qui me fait le plus peur, parce que les joueurs, ils parlent d'eux, ils communiquent, etc. Mais souvent, on oublie qu'on est représentant d'un club. Et c'est ça qui me fait souvent peur, parce que ça peut vite partir aux sucettes. Donc mettre en avant, faire de la com, se mettre en avant, etc., individuellement, je trouve ça très intéressant, ne serait-ce que pour aussi informer la famille, etc. Mais il faut pas oublier que tu es salarié, donc faut vraiment faire attention à tout ce que tu dis, et c'est ça que la limite des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça sert à faire polémique, et moi j'ai de plus en plus de mal avec ça. On parle plus du sport, quoi. On parle de lui, il a pas fait ça, lui, il a pas joué comme ça, le coach, il veut pas le faire jouer.
C'est vrai que les avis, les critiques, on critique beaucoup la performance. Voilà, un joueur qui loupe, on prend l'exemple au football, qui loupe un penalty, qui loupe une action décisive, etc., va tout de suite être critiqué. Et je pense que ça dépasse aussi des fois le cadre sportif, parce que on peut voir aussi des menaces de mort, etc. Ça dépasse vraiment le cadre du sportif, et ça va vraiment dans le cadre de l'affect, de la famille, et c'est ça qui est dommageable aussi.
Ouais, puis on est toujours en train de regarder les performances des joueurs. Quand quelqu'un fait mal ou joue mal, on dit t'as vu, il y a deux jours il était en train de danser à Copacabana, c'est pas normal, etc. Donc c'est bien de s'exposer, mais il faut vraiment avoir faut se blinder, quoi, parce que après ça peut partir dans tous les sens. Ça va trop vite aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Le moindre truc, hein, on l'a vu encore la semaine dernière avec le foot à Chartres, ça fait boule de neige, ça retombe sur tout le monde. Donc aujourd'hui c'est bien, parce que ça fait vivre les athlètes et ils communiquent et c'est intéressant, mais il ne faut pas oublier que derrière il y a des clubs, il y a des familles, et tout ça peut vite partir en cacahuète. Donc ça a ses limites.
Margot, est-ce que justement vous en parlez dans le vestiaire? On le sait, dans l'équipe il y en a qui sont plus ou moins sur les réseaux sociaux, il y en a qui utilisent aussi pour le sportif mais aussi pour le côté pro. Est-ce que justement vous en parlez, vous, entre vous, de l'usage des réseaux sociaux, si vous voyez quelqu'un qui communique un petit peu trop ou pas forcément à bon escient, vous pouvez en parler, dire fais attention, etc. Comment ça se gère, vous, en interne?
Nous, dans l'équipe, on en discute très bien. Il y a y a aussi cette différence de génération, je pense. Parce que nous, les plus anciennes, on n'est vraiment pas dans l'ultra-partage de notre vie privée ou de ce qu'on va faire tous les jours. On partage nos moments personnels, mais de manière générale. Et c'est vrai que les générations nouvelles ont un rapport avec les réseaux qui est hyper, je dirais pas malsain, mais il y a cette culture du « moi, je fais ça, donc je vais le montrer ».
M'as-tu vu ?
Ouais, voilà, un peu. Je dis pas que nous, dans notre équipe, ça l'est forcément, mais il y a TikTok aussi, ces tendances, ces trends-là qu'ils appellent, où il faut suivre, être influencé et tout ça. Et c'est vrai que des fois, ça peut un peu matrixer les gens, entre guillemets, et les faire entrer dans des délires un peu spéciaux. Enfin, à l'image de certaines qui ont pu faire à l'époque des lives ou des questions-réponses où il n'y a pas forcément besoin. Et même pour l'image du club, c'est assez négatif de raconter des choses. On s'en fiche, quoi. Enfin, il faut rester assez pro aussi. On est quand même si on n'a pas un milliard d'abonnés, on est quand même regardé. Il y a des gens qui nous suivent. Et je pense que aussi, même pour les garçons et pour les handballeurs, c'est pareil, quoi. On partage des choses vraiment qui doivent intéresser les gens, et sinon dans ce cas-là on se crée un profil personnel qu'on rend privé et on partage nos bêtises là-dessus. Mais oui, on en parle, et je pense vraiment que la différence, elle est hyper générationnelle, et que ce serait important d'ailleurs d'avoir des personnes qui viennent nous parler de ces dérives-là, parce que même à petite échelle, c'est important. On voit, j'ai l'exemple de Mondeville sur les réseaux sociaux, leur équipe, elle se fait mais tacler dans tous les sens. Moi, si j'étais joueuse, ça me rendrait triste, quoi, de voir les gens critiquer à ce point-là. Enfin, donc ouais, c'est vrai que ça a du bon, parce que ça met en valeur, les gens nous voient, regardent nos performances et tout ça, mais il faut faire attention quand même à toutes ces dérives-là.
Et l'utiliser à bon escient. Merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de cette émission. On a passé un très très bon moment ensemble. Une semaine riche qui arrive, avec notamment du basket demain soir sur les antennes de Chartres TV, et la réception de Rennes. Un gros match entre ces deux équipes. Suivra ensuite samedi deux matchs à 18h. Le Chartres Football accueillera Rouen aussi, et vous pourrez me retrouver aux commentaires avec Alban, et demain soir ça sera Nico avec Alban, et s'en suivra à 20h Margot, la réception de Montbrison, aussi un gros choc pour le CCBF. Et enfin dimanche, on clôturera cette semaine sportive avec le Chartres Rugby qui accueille Nuit Saint-Georges à 15h au stade des Babours. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à tous les deux, on vous souhaite une très bonne soirée et une bonne semaine, à bientôt.